et là j'entre dans mon message, dans ce que l'on vit en tant qu'Église, dans ce que l'on vit en tant que personne, dans ce que l'on vit dans la relation avec Dieu, j'ai le sentiment, en tout cas c'est ce que je vis personnellement, qu'on entre dans une dimension où tellement de choses s'ouvrent, tellement de choses nouvelles sont en train de s'ouvrir. Des vérités, des révélations qui ont été posées dans nos vies à certains moments et qui ont été posées là comme des fondements, mais pas toujours avec, en étant reliées les unes aux autres, sont en train de prendre sens. Il y a un univers de révélations qui est en train de booster, d'accélérer un processus de croissance et de maturité de l'Église. Et c'est dans cette dimension-là, avec beaucoup d'humilité, que je voudrais m'entretenir avec vous ce matin concernant notre compréhension de l'Église, concernant notre pratique de l'Église, concernant notre relation à l'Église. C'est pour nous, au cœur de notre passion, que de comprendre que le projet de Dieu passe à travers l'Église. Pour autant, ce projet ne se limite pas à l'Église, et notre vision ensemble, quelles que soient les particularités locales, quelles que soient les formes, les formulations qui nous sont propres sur le plan local, notre vision commune et globale, c'est de proclamer et d'incarner le royaume de Dieu. Nous pensons qu'il y a un projet de Dieu qui dépasse l'Église, mais dont l'Église fait intimement partie, dont elle est une partie stratégique et centrale. Et c'est important pour nous de relier toujours ce que nous vivons en tant que personne et en tant qu'Église à cette mesure, à cette vision, à ce cadre beaucoup plus global qui est le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ces deux réalités cohabitent en nous, au milieu de nous. La clarté, la relation qui les unit n'est pas toujours aussi claire que cela. Et ce matin, à travers quelques textes de l'Écriture, j'aimerais qu'on puisse y faire un pas de plus ensemble, dans la compréhension du projet de Dieu. Alors, ne pensez pas que ça concerne un tel, les ministères qui ont été établis hier, que ça concerne les leaders de votre Église seulement, que ça concerne, et que vous, en tant que personne, dans votre quotidien, avec tous les défis que vous avez à relever, ben, finalement, ça vous passe un petit peu au-dessus, parce qu'il y a des besoins aujourd'hui, il y a des souffrances, il y a des défis, il y a des difficultés qui font que eh bien, toutes ces questions sont un peu techniques, un peu théologiques. Non, pas du tout. Ce que nous sommes en train d'approcher, ce dont nous sommes en train d'entrer, ça a des conséquences concrètes dans votre vie. Dans votre vie personnelle, dans votre croissance spirituelle, dans votre compréhension de votre implication professionnelle, associative, quelles que soient les dimensions, les appels, les dons que Dieu vous a donnés, tout ce que nous allons voir, je le dis, j'espère que vous en serez convaincus un peu plus tout à l'heure, mais je le dis déjà, ça vous concerne, ça va dans ce sens-là. Il y aura beaucoup de gens sont déçus par l'Église. Pas au milieu de nous, sinon vous ne seriez pas là, quoique des fois. Hein. Mais on entend ici et là des personnes qui nourrissent une forme de rancœur, d'incompréhension, parce qu'il y a eu des blessures, parce qu'il y a eu... Oui, parce que l'Église est toujours en construction. Évidemment, elle ne correspondra jamais à l'idéal que l'on porte chacun. Moi, je suis né dans l'Église, je n'ai pas été conçu, mais presque dans l'Église. Je ne peux pas entrer dans l'intimité de... Mais, j'ai l'impression que j'ai toujours été dans l'Église depuis 4 ou 5 générations. J'étais pas là, mais comme on était déjà dans le cœur de Dieu, j'étais aussi dans le cœur de mes arrière-grands-parents quand ils ont franchi la porte d'une église évangélique. Et l'appel de Dieu pour l'Église a retenti dans un milieu qui, je ne l'évoquerai pas, je ne le désignerai pas, parce que c'est pas l'intérêt de ce que je veux dire, dans un milieu qui était, à ce moment-là en tout cas, pas très enthousiasmant. Et pourtant, dans ce contexte-là, en plus, je suis fils de pasteur, donc j'ai connu l'Église sous toutes les coutures, côté cour, côté jardin, Et pas toujours justement dans ce qu'il y a de plus exaltant. Et bien pourtant, je peux vous dire qu'il y a eu, à l'âge de... Quand le Seigneur a renouvelé cet appel qu'il avait lancé dans ma vie, adressé à ma vie pour le servir dès mon jeune âge, mais au moment de la conversion, à l'adolescence, l'appel pour le servir a retenti de manière encore plus claire, encore plus évidente, au point que je n'ai pas pu envisager autre chose que d'être au service de l'Église. Cet appel s'est manifesté, ça, j'ai retrouvé un petit peu quelques accents à travers des témoignages de nos amis hier soir, s'est manifesté par une passion pour l'Église. Ce que j'en lisais de ce que Paul en écrit dans l'Écriture, je l'ai dévoré. Au moment de ma conversion, j'ai lu des dizaines de fois les épîtres de Paul, ça me nourrissait, ça m'enthousiasmait, ça faisait naître une passion. Et pourtant, c'était presque plus émotionnel qu'autre chose, mais quand même, c'était ça qui a été au départ de ma vie. Et ce que je voyais de l'Église, ce que j'entrevoyais dans l'Écriture, ne correspondait pas du tout à la réalité que nous vivions concrètement. Mais ça ne change pas. Ça n'a rien changé à l'appel de Dieu. Et il y a en nous un rêve pour l'Église. et un rêve pour le royaume de Dieu que nous ne trouverons jamais totalement incarné dans, dans la réalité de nos communautés et même dans la réalité du réseau Nouvelle Connexion. Quoique, quand même, on approche pas mal quand même de l'idéal. Mais bon, il y a toujours, et c'est normal, parce que la vision de Dieu doit toujours dépasser la réalité dans laquelle nous sommes. Et donc, ce n'est pas le décalage qui doit nourrir la rancœur et l'amertume et puis le désengagement pour dire, bon, bah, quand l'Église aura enfin compris, je m'engagerai ou je rejoindrai ses rangs. Non, 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 on est en marche. On est en marche. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'Église qui, ça peut parfois passer par des malaises, par des mal-êtres. Quand un corps grandit, on l'a vu hier, à travers son ossature, à travers ses jointures, ça fait mal. Ça grince, on a mal partout, on est fatigué, ça tire. La croissance, ce n'est pas facile. Mais le but de la croissance, c'est la maturité. Et même si on est un peu en malaise, en mal-être par rapport à là où nous en sommes les uns et les autres, à ce que nous vivons en tant qu'Église, je crois que c'est important de tendre vers ce que Dieu, de s'ouvrir à ce que Dieu est en train de faire. Parce que Dieu va l'accomplir. Ce projet qui est dans nos cœurs, Dieu va l'accomplir. Et ce qu'il va faire dépasse largement, infiniment, tout ce que nous pouvons penser ou demander. Vos rêves les plus fous pour vos vies comme pour l'Église sont largement en dessous de ce que Dieu a préparé. Et de ce dans quoi nous allons entrer. Nos générations, peut-être, les plus jeunes générations, certainement. La mienne, bon, on fait ce qu'on peut pour préparer un peu le terrain, mais voilà, il faut bien avouer qu'il y a encore du travail à faire et que les autres générations iront plus loin. Mais les générations qui suivront jusqu'au retour du Seigneur, et il y en a plus que ce qu'on croit de ces générations, je vous laisse méditer ça, ces générations-là verront la beauté du projet de Dieu à travers l'Église, en vue d'établir et de manifester le royaume de Dieu. Alors je vais lire un texte qui, pour moi, est un texte de base. Je l'ai partagé avec les amis de Montauban dimanche dernier. Je vais redire des choses un petit peu que vous avez déjà entendues. Je parle à nos amis qui nous visitent de Montauban. Mais ça ne me gêne pas parce que je ne dis pas partout où je passe avec des accents et des angles différents. Parce que je crois que ça fait partie des révélations fondamentales, en tout cas de ce que je comprends du projet de Dieu pour aujourd'hui. Tite, chapitre 2, les versets 11 à 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le temps présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation en gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et voilà le partie du texte que je voudrais souligner, afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Amen. Le texte, vous l'avez lu pour plusieurs d'entre vous quelques fois, et parfois quelques dizaines de fois. Vous n'y trouvez pas le mot vraiment église. Et c'est ça que j'aime d'ailleurs. Vous n'y trouvez pas non plus la réalité du royaume, la mention du royaume de Dieu. Et c'est encore cela que j'aime. Mais pourtant, on a là un texte fondateur. Il commence par l'affirmation que la grâce de Dieu que nous avons célébrée ce matin a été manifestée. Le verbe manifester ici exprime quelque chose de fort, une révélation qui déchire les ténèbres. Et la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui, on le verra un peu plus tout à l'heure, mais je vais le dire dès maintenant, qui nous concerne notre bien-être personnel seulement. Notre consolation, notre adoption et tout cela, qui est au cœur. Mais la grâce de Dieu, c'est plus que ce que nous pouvons en vivre et en bénéficier, c'est toute la révélation de Dieu, et c'est du coup toute une culture. Et la seule chose que je voudrais dire dès maintenant sur ce point, c'est que la grâce de Dieu, c'est la culture du royaume. Pendant longtemps, j'ai reçu, je me suis converti en comprenant la révélation de la grâce, et puis plus tard, j'ai commencer à comprendre, comme la grâce d'ailleurs, la révélation du royaume de Dieu. Et puis ça fait partie comme deux fondements qui étaient dans ma vie posés là et là, sans lien l'un avec l'autre. Et ces derniers temps, je m'aperçois que Dieu est en train de rassembler tout cela. L'apôtre Paul dit, nous avons reçu, voilà un texte que je répète dizaines de fois, mais qui pour moi a un sens prophétique aujourd'hui, nous avons reçu, et il parle de l'Église, la grâce et l'apostolat, afin d'amener en son nom, à l'obéissance de la foi, toutes les nations. La grâce, c'est la révélation et la culture du royaume de Dieu. Je ne vais pas m'y arrêter plus longtemps, parce que je voudrais poursuivre dans cette compréhension de l'Église. Ici, L'Église n'est pas mentionnée. Mais par contre, elle est présentée sous... Elle est mentionnée, mais le mot n'est pas présent. Mais elle est présente à travers une expression qui, pour moi, est importante. Cette expression, c'est le verset que j'ai souligné. Cette grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle produit une transformation dans notre vie. Et elle produit un peuple. Déjà, on peut dire et on peut réaffirmer que la grâce n'a rien d'individualiste. La grâce ne pourvoit pas simplement notre relation individuelle et personnelle avec Dieu. C'est ça. Mais ce n'est pas seulement ça. La grâce rassemble. Le projet de Dieu, c'est de se faire un peuple. La révélation de la grâce, c'est de rassembler des hommes et des femmes de toute race, de toute langue, de toute culture, et d'en faire une communauté au milieu de laquelle il va vivre, répandre sa présence et agir. Et l'Église ici est mentionnée, non pas sous les images que l'on a habituellement, le temple, le corps, on aime bien ces illustrations. Quoi d'autre ? L'épouse, etc. Tout ça, ce sont des images justes concernant l'Église. Mais si on s'arrête que sur ces images, on a une compréhension partielle du projet de Dieu. Ici, on est devant une autre définition de l'Église qui la présente comme un peuple. Et ça nous sort de notre compréhension de l'Église. L'Église, ce n'est pas la communauté que vous formez ici seulement. Non seulement le dimanche matin, mais dans tous vos cercles de rencontres, avec le but de se faire du bien, de se former, d'être enseigné. Ça, c'est une dimension de l'Église. La dimension culturelle de l'Église n'est pas à rejeter, n'est pas à minorer, n'est pas à écarter. Mais elle n'épuise pas tout le projet de Dieu à travers l'Église. Et on est dans un contexte où notre culture, avec ses différences associations sur le plan légal, statutaire, associations culturelles, associations culturelles, etc., produisent en nous une vision de l'Église qui a besoin d'être décloisonnée, qui a besoin d'exploser finalement. D'accord pour être en accord justement avec toutes les exigences légales de notre pays, aucun problème. Mais non à l'enfermement de l'Église dans nos têtes, dans notre pratique, dans une dimension seulement culturelle et communautaire. Ici, ce n'est pas de cela dont il s'agit. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu formé de toute langue, de toute race, de toute nation, qui est appelé à exercer le royaume de Dieu et à manifester le gouvernement de Dieu sur la terre. Se faire un peuple qui lui appartienne, ça a toujours été le projet de Dieu. Ça a commencé avec une famille, Adam et Ève. On dirait, oh là, on ne va pas recommencer avec la Genèse. On n'a pas fini ce matin. Si on commence par la Genèse, alors avant qu'on arrive à l'Apocalypse. Non, non, je vais aller vite. Le projet de Dieu avec Adam et Ève, qui les deux sont image de Dieu, et qui les deux sont positionnés comme gérants de la création, comme représentants de Dieu. C'est à eux que s'adresse d'abord la parole de David qui dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?» Et David y répond prophétiquement en disant « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu as tout mis sous ses pieds. » Cette parole est appliquée à Jésus plus tard, bien sûr. Mais le projet de Dieu en créant Adam, c'est ici qu'il est aussi décrit. Et quand Dieu crée l'humanité à travers Adam et Ève, il les place comme des gérants de la création, comme une famille et puis des nations qui doivent naître, une postérité qui doit naître d'eux, remplissez la terre, comme des nations qui ont reçu pour mission de faire fructifier la création, de la mettre en valeur et d'y manifester la présence de Dieu. C'est ça le projet. Ça n'a pas apparemment abouti, apparemment. Mais c'est quand même ça le projet de Dieu. Et si vous voulez avoir une compréhension de l'Église, on ne peut pas s'arrêter à Pentecôte que nous allons célébrer la semaine prochaine. On ne peut pas s'arrêter au travail avec les 12 disciples. Il faut replacer le projet de Dieu dans le projet global. On est là devant un projet qui dépasse notre quotidien. Et on prend un peu de hauteur. Le projet de Dieu, c'est de faire un peuple qui lui appartienne et qui soit ainsi gérant de la création dans laquelle il l'a placé. Ça inclut, vous le comprenez, non pas la dimension seulement culturelle que nous connaissons et que nous chérissons aujourd'hui, mais ça inclut toutes les activités de l'humanité de l'époque. Remplissez la terre, dominez-la, sujettissez-la. C'était tout le développement scientifique, technologique, intellectuel, politique, économique qui devait se développer, se mettre en place à partir de la mission d'Adam et Ève. C'est ça le projet de Dieu. Le péché vient. On dit, ben voilà. Le projet de Dieu tombe à l'eau. Eh bien, pas du tout. Le mandat que Dieu donne à l'homme, il se poursuit. Il se poursuit dans un autre contexte. Dans Genèse, c'était la relation avec Dieu. Tous les dons que l'homme et la femme avaient reçus pour gérer la création étaient au service de Dieu et pour sa gloire et pour leur bien-être et pour leur épanouissement. Mais quand le péché vient, alors la relation avec Dieu est coupée. La mission demeure, mais l'homme continue de gérer la terre et la création à sa façon, sans Dieu, parfois contre Dieu, pour sa propre gloire. Mais Dieu poursuit son plan. Alors il fait naître un peuple, il suscite un peuple, le peuple d'Israël, qui devient son peuple premier-né, à travers de qui il va se révéler pour aux nations. Et à travers ce peuple, qui devient un appel à être son témoin, Dieu veut parler aux nations. Dieu veut montrer aux nations le bienfait que d'être une communauté humaine qui vit sous les principes de son royaume. Et tous les textes de l'Ancien Testament qui décrivent et qui déclinent la vie de la nation ont pour but de montrer combien c'est bon de vivre sous les principes de Dieu. Combien c'est prometteur. Les 10 commandements sont des promesses de vie, de développement, et non pas des lois qui doivent tomber comme une massue sur notre vie. C'était ça la mission d'Israël. L'humanité continue et le Christ vient. Alors vous comprenez qu'il y a d'abord le projet de Dieu à la création, puis la chute intervient, mais quand même Dieu poursuit son plan. Il le poursuit à travers une nation, le peuple d'Israël, et puis Jésus vient. Jésus est envoyé. Et ce qu'on ignore souvent dans nos milieux du statut, de la raison d'être, du Christ, c'est que bien sûr il est le sauveur, bien sûr il est le rédempteur, bien sûr il est le fils de Dieu incarné, mais il est aussi présenté dans Romains et dans Corinthiens comme le second Adam. Et là on découvre que Dieu c'est pas quelqu'un qui passe d'un plan à un autre, et que l'église et son royaume c'est pas un plan B. Tu dis, bon maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rattraper le coup? Mais pas du tout. Dieu poursuit son plan. Dieu ne renonce pas. Dieu ne s'est pas retiré de l'histoire du monde en disant, ben voilà, puisque maintenant vous avez péché. Non, sa grâce ne faillit pas. Ça veut dire que même au sein du péché, Dieu a continué de former un peuple et de poursuivre son plan qui est en Christ, de recréer une nouvelle humanité. Puisque ce Christ, nouvel Adam, second Adam, Adam, nous est-il dit, un peu de théologie, je vous l'accorde, mais un peu de patience, ça va aller. Le premier Adam, dit l'apôtre Paul, c'est une parole d'une puissance, moi qui me... J'ai un peu du mal à la comprendre. C'est juste la figure de celui qui devait venir. Et donc là, on entre dans... Alors comment appeler ça? La pression? Non, la souveraineté de Dieu. Dans le fait que Dieu a un projet qui dépasse le temps et notre compréhension. Pour lui, il n'y a pas de présent, de passé et d'avenir. Passé, présent et avenir. Il englobe. Et du coup, son projet n'est pas remis en cause, même par le péché. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et la chute de l'homme, même si on en subit les effets destructeurs, désolants, déchirants, et la mort que nous subissons dans la chair, les uns et les autres, comme la maladie, mais comme les horreurs que l'on voit dans le monde à cause de la perversion en fait, que le péché a amené dans l'humanité, tout cela, on le voit, on le subit, mais on ne baisse pas les bras, parce que ce monde, Dieu n'a pas renoncé à le sauver. Il n'a pas renoncé à se faire un peuple. Il n'a pas renoncé à susciter une nouvelle humanité en Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, nouvelle création. Et le but, l'Église, c'est non pas simplement l'épouse, le temple, le corps, tout ça c'est juste, mais c'est partiel. L'Église, c'est le peuple de Dieu, c'est la nouvelle humanité que Dieu recrée en Christ, le second Adam, pour reprendre le mandat que Dieu avait donné à Adam. Et ce mandat, c'était de gérer la création, de gérer le monde. Vous me direz, oui, voilà, on y est, ça y est, les fausses doctrines maintenant dans RNC, alors... Alors, des fois, on nous suspecte, on me suspecte, il y a des sites pour ça, qui sont sites internet, qui sont spécialisés dans... Le débusquage des, je ne sais pas si c'est français ça, mais des fausses doctrines, parce qu'il faut, il faut être vigilant, il faut voilà. Alors, je vais garder mon calme, je vais juste reprendre les choses. C'est pas parce que je dis que l'Église est cette nouvelle humanité que je nie le fait que nous sommes dans un temps où nous sommes dans le temps présent, le siècle présent, marqué par le péché. Qui est un temps dans lequel, évidemment, l'Église n'est pas dans le triomphe que l'on pourrait imaginer ou penser. C'est une Église souffrante, une Église qui peut passer par la persécution, par la tribulation. Mais pour autant, le projet de Dieu pour l'Église ne change pas. Et ce que je suis en train de dire, et je vais développer, concernant la manifestation du royaume de Dieu par l'Église, ça ne signifie pas que c'est nous, Église, qui allons établir le royaume de Dieu dans sa dimension éternelle. Non, nous ne l'établirons pas. Nous ne sommes pas dans une dynamique triomphaliste et encore moins de prise de pouvoir, mais nous croyons que nous sommes appelés à être des témoins qui incarnent ce royaume de Dieu dans une dimension beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer et que ce que l'humanité a encore jamais connu. Donc il y a une espérance. On est conscient, on est lucide sur le contexte dans lequel on est. Seul Jésus, à son retour, établira le royaume de manière éternelle. Pour autant, aujourd'hui, nous sommes appelés, nous sommes tenus, nous sommes contraints, nous sommes, je ne sais pas comment dire. En tout cas, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions manifester une plus grande et une plus réelle, pertinente manifestation de son royaume. La vision doloriste de l'Église qui attend et qui se cache et qui attend le retour du Seigneur ou qui n'a d'autre perspective que la venue de l'Antichrist, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme ânerie dans ces temps d'élection, hein ? Et je reste poli. Si c'est la seule perspective que l'on a, si c'est le seul horizon que l'on a, eh bien relisons notre Bible. Je ne dis pas que ce ne sont pas des réalités, que l'opposition du monde à l'Église, mais je dis que ce n'est pas la réalité ultime. Ce que nous sommes appelés à être aujourd'hui, c'est cette nouvelle humanité qui reprend le mandat d'Adam. Alors on sort de la dimension cultuelle, non pas pour l'ignorer et pour fuir l'Église, hein, mais dans nos têtes. On fait tomber ces clivages, ce cloisonnement. Et on s'est dit, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Église, à travers ses membres, devient l'agent du royaume de Dieu. Et bien sûr que le mandat qui est le nôtre, c'est de faire de toute façon des disciples, donc témoignage, etc. Mais c'est aussi de continuer ce que Dieu a donné à Adam comme mandat. Assujettir la terre, dominer, cultiver, mettre en valeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la dimension culturelle ou spirituelle stricte qui est notre vocation. Il y a toutes les sphères d'engagement, toutes les sphères d'implication, tous les domaines socio-économiques, politiques, associatifs, familiaux, tous les domaines de la vie sont appelés à revenir sous l'autorité du roi des rois et du Seigneur Jésus-Christ. Le plein évangile, ce n'est pas simplement les miracles, les prodiges. Le plein évangile, c'est bien sûr la guérison de Dieu, le salut dans notre être entier, et bien sûr dans les signes et les prodiges. Mais le plein évangile, c'est quand tous les domaines de notre vie, y compris nos talents, nos capacités intellectuelles, professionnelles, artistiques, artisanaux, et toute notre vocation, tout ce à quoi Dieu nous a appelés, lui qui nous a aimés avant la fondation du monde, c'est quand cette dimension-là reprend vie, retrouve son sens et rentre dans la dynamique du royaume de Dieu. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Eh bien, vous savez quoi ? Ce n'est pas que votre âme qui était perdue. C'est tout en nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sauvés, mais qui sont encore perdus. Sauvés parce qu'on va aller au ciel ? Ben, si c'est ça la vision du salut, il y a beaucoup de choses à revoir. La vision du salut, c'est le royaume de Dieu qui vient en moi, qui restaure tout ce que je suis, dans mon identité, dans mes talents, dans mes capacités, dans mon appel, dans ma vocation, et qui redonne vie à tout ça. Et ce matin, c'est ça que je vise. Un peuple zélé pour les œuvres bonnes, ce n'est pas les bienfaits caritatifs que l'on fait au quotidien, les sourires, les gentillesses et tout, qui font que, eh bien, on va rendre le monde un peu meilleur. Oui, ça c'est bien. Mais les œuvres bonnes, c'est tout ce à quoi Dieu nous a appelés les uns et les autres dans nos comportements les plus quotidiens, les plus anodins apparemment, mais qui sont l'incarnation de son royaume. C'est notre vie professionnelle, c'est notre vie associative, c'est nos engagements économiques, politiques, quels qu'ils soient, c'est notre quotidien. Des fois, on me dit, mais bon, d'accord, mais c'est quoi être un disciple dans la vie du royaume, dans la perspective du royaume aujourd'hui ? Parce qu'on pense que dans le royaume de Dieu, c'est faire des actes. Non, c'est incarner là où tu es la grâce de Dieu, dans la compassion, dans l'amour, dans la joie, et puis dans des œuvres, des comportements, des actions, des entreprises, qui seront certaines spectaculaires, peut-être, mais pas nécessairement, que personne d'autre ne verra. Les œuvres bonnes, c'est tout ce que Dieu veut faire à travers nous pour bénir le monde dans lequel nous sommes et qui n'a pas de sphère cloisonnée, qui touche toutes les sphères de notre vie. Et le plein salut, c'est quand le royaume de Dieu éclaire toutes ces dimensions de notre vie et fait qu'on reprend vie partout. Et le salut entre dans notre vie et à travers nous, il se manifeste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Nouvelle humanité, nouveau peuple, zélé pour les œuvres bonnes. On célèbre le 500e anniversaire de Luther, en tout cas du moment où, semble-t-il, Luther a placardé ses 85 thèses dans lesquelles il s'oppose à la théorie des indulgences et il décline sa version, sa compréhension de la justification par la foi. Il placarde ça sur la porte de la chapelle de Wittenberg. Ça a bouleversé le monde à l'époque. Ça a bouleversé le monde, la réforme. Ça n'a pas touché simplement la relation des croyants avec Dieu, la relation individuelle. Ça l'a évidemment transformé, mais ça a débordé sur une révolution sociétale, dans la relation avec les autorités, dans la vie économique. L'entreprise, la libre entreprise a commencé de se manifester. Nouvelle relation à l'argent. On a compris que le travail, c'était une vocation. Il y a des livres, mais des écrits de Luther, de Calvin, de Martin Bucer, le réformateur de Strasbourg, qui nous donnent une compréhension du travail comme vocation. On ne fera jamais mieux aujourd'hui. Peu importe, le faire mieux ou pas, l'important, c'est de le vivre. Mais il y a une révélation de la vocation de chacun qui n'est pas simplement... C'est ça, le sacerdoce universel. C'est chacun a un accès libre à Dieu, sans médiation de qui que ce soit. Et ça peut encore faire son chemin dans nos têtes, parce que nous, voilà, bon, accès libre à Dieu, par la médiation de l'Esprit de la parole. Et ça se poursuit, et nous on prolonge avec cette compréhension du fait que chacun a une vocation, chacun a une dimension de ministère. On n'est pas tous appelés à être un ministère de gouvernement, apôtre, prophète, etc. C'est très bien, on en a besoin pour l'Église, mais ce sont des ministères de gouvernement. Et heureusement, la liste des ministères, des appels de Dieu, ne se réduit pas à ces cinq catégories-là. Mais chacun a une vocation, chacun a une destinée. Je ne dis pas ça pour nous flatter notre ego et dire « oui, moi, je veux entrer dans mon appel ». Ça, c'est non. Simplement pour dire ce que tu es à travers tes dons, tes talents, même les plus apparemment insignifiants, ce que tu aimes, dont tu n'as même pas pris conscience. Parfois, des talents que autour de toi, on dit « oh, qu'est-ce que tu es doué pour l'hospitalité, pour la libéralité, pour le service, je ne sais pas ». Tout ça, c'est des choses que Dieu met en nous et qui dessinent une trajectoire de vie, qui dessinent un projet de vie, qui dessinent une orientation, une vocation qui nous est unique. Chaque membre du corps de Christ a cette vocation-là, et la vocation de l'Église, c'est de mettre en œuvre, de révéler, de discerner, de mettre en œuvre ces qualifications-là. Alors, l'éducation par la foi, puisque c'est ça dont je suis parti, ne se limite pas au fait que je suis pardonné, adopté. Et quand je dis ça, c'est pas pour mépriser cette dimension du salut. C'est au cœur de... Mettre la justification par la foi, c'est le fait que Dieu couvre nos péchés et nous rétablit dans la position de ses enfants, de ses héritiers, comme si nous n'avions jamais péché. C'est comme ça que Dieu nous voit. Il efface tout, il jette nos péchés au fond de la mer et il nous rétablit. La grâce de Dieu, ça n'a rien de sentimental, ça n'a rien d'émotionnel seulement, même si ça touche nos émotions et nos sentiments. C'est Dieu qui nous restaure, c'est Dieu qui restaure l'humanité, c'est Dieu qui recrée l'humanité, qui couvre le péché par sa grâce alors que nous méritions la mort, qui nous redonne son nom, qui fait de nous ses enfants et qui nous replace dans la position initiale dans laquelle il avait placé sa créature à l'origine, afin que nous prenions ensemble, reprenions ensemble le flambeau. Je vous laisse un peu méditer ça. Ou peut-être que j'ai besoin d'expliquer encore, parce que moi-même, j'ai encore toujours du mal à le comprendre. Alors, si vous ne le comprenez pas, vous n'inquiétez pas, moi non plus, je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout, en tout cas. Mais on a besoin de ça, que ça descende dans nos cœurs. J'aimerais que la compréhension de la grâce change, soit encore plus forte, encore plus puissante que jamais dans notre vie. Et nous sommes aujourd'hui tentés, mais plus que tentés, je crois que c'est un combat spirituel que nous devons mener. Nous sommes formatés pour tout ramener de la dimension du salut et de la grâce à la dimension personnelle, individuelle. Le salut, c'est personnel, on est d'accord. Mais il y a des effets, il y a une dimension beaucoup plus large que cela. Un peuple zélé pour les bonnes œuvres, c'est un peuple de justifier, de gracier, qui est restauré. Tu es créé pour régner. Ceux qui reçoivent le don de la grâce, Romains 5, 17, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent le don de la grâce et de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ ? Des fois, on dit, oui, d'accord, ben ça c'est pour l'éternité. Oui, d'accord. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Oui, bien sûr, ça c'est l'éternité, parce que c'est ça qui nous attend. On va y revenir, si on a le temps, on va y revenir dans quelques instants. Mais le règne, il commence maintenant. Dans un contexte de souffrance, d'accord, d'opposition, d'accord, de confrontation, d'accord, de tribulation, d'accord. Mais ce n'est pas ça la finalité, ce n'est pas ça le seul angle par lequel nous devons voir notre appel et notre vocation. Notre appel est aujourd'hui de régner, d'exercer l'autorité par la foi, la prière, le service. Pas par la prise de pouvoir, par la foi, la prière, le service, l'amour, le pardon, la réconciliation et l'incarnation des principes de Dieu dans nos vies et nos engagements professionnels. C'est ça, régner. Ce n'est pas très brillant parfois. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas très médiatique, mais on s'en fiche. L'important, c'est qu'à travers nous, la présence de Dieu vienne, rayonne dans notre... C'est ça notre régner. C'est impacter tous les cercles où nous sommes, cercles de vie, de relations, de sa présence. Et c'est le laisser passer. Et ce n'est pas enfermer la relation avec Dieu dans notre être intérieur, mais c'est la laisser rayonner, passer. Parce que Dieu a un projet pour cette ville. Il a un projet pour l'entreprise où tu es. Il a un projet pour l'administration dans laquelle tu travailles. Il a un projet pour la culture dans laquelle nous nous trouvons. Il a un projet pour l'économie de notre nation. Si nous prions, on ne peut pas prier pour le gouvernement sans penser qu'au-delà de la bonne volonté de ceux qui y sont impliqués, que nous espérons et que nous, pour laquelle nous prions aussi, mais qu'il y a un projet de Dieu pour la restauration de l'économie, la restauration de l'éducation, la restauration de la vie médiatique. Pour que vous me direz, ah ouais, alors... Mais qu'est-ce qu'on est défaitiste ? Parce qu'on y va, sur « Eh oui, le pouvoir d'un tel, le pouvoir de tel courant de pensée, le pouvoir de telle spiritualité, le pouvoir de telle secte. » Je ne dis pas les noms parce que je ne veux pas être désobligeant, mais vous pouvez mettre, je mets des points de suspension et vous remplissez les cases. On voit que ça, on n'entend que ça sur Internet. Notre président qui serait la marionnette de tel ou tel pouvoir occulte, etc. Et alors ? Même si c'était vrai, comprenez d'abord, déjà, je mets en doute, mais peu importe, c'est pas la question, nos opinions ne peu importe pas. C'est notre seul horizon, c'est notre seul prisme pour regarder le monde dans lequel nous sommes. Mais qui nous servons ? Celui qui est roi des rois, celui qui est seigneur des seigneurs, qui a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. Donc nous n'allons pas dans une relation de défense, de crainte, d'opposition. On est dans la foi. Que Dieu accomplisse ses plans pour notre nation à travers qui il veut, comme il veut. Ça ne veut pas dire que tout ira bien, comme ça, comme par un chantement, que tout se passera comme on l'entend. Mais ça veut dire qu'ultimement, Dieu est au contrôle. Et nous sommes ce peuple qui est zélé, purifié par lui, et zélé pour les œuvres bonnes. Amen. D'accord, pour repenser, je vous donne juste un exercice pratique, pour repenser à la justification par la foi, dans cette dimension de rétablissement dans la position de règne. Dieu nous rétablit. Vous voyez comment on a du chemin à faire. Hein, nous, la grâce de Dieu, on a du mal à l'accepter. On a du mal parce que justement, c'est inacceptable à notre chair. C'est inacceptable, notre chair. C'est insupportable, la grâce de Dieu. Personne ici n'est en mesure d'accepter la grâce de Dieu par lui-même. Il n'y a rien de plus révoltant pour notre chair que d'être gracié. Nous, tout ce qu'on cherche à faire, c'est à mériter. C'est le péché originel, entre autres. Donc, quand Dieu nous fait grâce, des fois, j'entends des amis, même des pasteurs, qui me disent « Écoute, la grâce, doucement, parce que jusqu'où va-t-on ? » Eh bien, allons jusqu'au bout de la grâce. Parce que dès qu'on commence à mettre un peu en doute, c'est qu'on n'a rien compris à la grâce. Parce qu'on veut toujours un peu de grâce, un peu de loi, un peu de grâce, un peu de loi. Et bien alors, si vous retournez à l'église des Galates, allez-y. Mais ici, c'est le peuple de Dieu qui est au bénéfice de la grâce de Dieu qui a été manifestée, qui devient ce peuple zélé pour les œuvres bonnes. Et il nous faut une révolution de la grâce, beaucoup plus profonde. Il nous faut, non pas un lavage de cerveau, mais une rééducation profonde en nous, dans nos têtes, parce que nous ne sommes pas capables d'accepter la grâce. Cela, c'est le don de Dieu, dit l'Écriture. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi, c'est un miracle de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas recevoir ce que Dieu veut me donner parce que tout en moi s'y oppose. Tout en moi me refuse la grâce de Dieu parce que j'ai envie de mériter. Et oui, un peu de grâce, mais si je peux mettre un peu de mérite quand même. J'entendais ça ce matin. Quelqu'un disait à la télé. Donc, c'est pas dans l'église. Oui, la grâce, c'est bien, mais après, il faut la mériter. Non, mais je comprenais ce qu'il voulait dire, mais c'est ça nous poursuit. Non, la grâce de Dieu, c'est gratuit, et l'entretien, c'est gratuit aussi. je reviens un peu à cette idée. La grâce de Dieu a été manifestée, elle nous enseigne. Rien de plus pédagogique que la grâce. À quoi ? À renoncer. Ce à quoi je ne peux pas renoncer, ce n'est pas en mettant des verrous en moi pour refuser et vaincre le péché que je vais y arriver. La grâce de Dieu m'enseigne à renoncer, à l'impiété, etc. Tout ce qui me fait la guerre, tout ce qui me ramène en arrière, tout ce qui me tire vers le bas, le péché qui est en moi, ce n'est pas les obligations de la loi, ni d'une discipline spirituelle de fer qui va m'en libérer. C'est la révélation de la grâce de Dieu qui me jette à ses pieds, qui fait fondre toutes mes résistances et qui me laisse sans défense. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas que de renoncer. Amen. À renoncer et à vivre dans le siècle présent. Si ce n'est pas le royaume de Dieu, ça, alors je ne fuis pas le siècle présent aussi... sombre soit-il, c'est le siècle dans lequel je suis appelé à vivre la grâce de Dieu. Et c'est sur cette terre-là que Dieu vient pour établir son règne. Donc, renoncer, oui, mais vivre. Si tu passes ta vie à renoncer, il y a un problème. Mourir, oui, mais ressusciter. Sinon... Et non, la grâce de Dieu, c'est ce qui nous fait vivre pleinement. Une pleine vie dans tous les domaines de notre vie, relationnelle, professionnelle, culturelle. On vit de la grâce de Dieu et on témoigne cette grâce-là. Amen. Pourquoi j'en étais là ? Pour dire que la grâce de Dieu doit vraiment nous... Il doit y avoir un bouleversement. Mais du coup, ça doit se prolonger dans la compréhension que là où je suis, cette grâce m'amène à régner. C'est ce pourquoi je vais prier dans quelques instants. On a du mal à l'accepter, c'est ça que je voulais dire. Parce que, et du coup, on est toujours en train de se répéter que la grâce de Dieu, c'est bon, il n'y a rien de meilleur et tout. Mais on en reste au seuil. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on a toujours du mal à être au niveau de la grâce. Enfin, pas au niveau au sens de... Mais accepter cette grâce parce qu'on en perçoit le bienfait. Et puis, rapidement, on revient en arrière et on revient sur nos erreurs, nos fragilités, nos faiblesses. Et puis, on revient dans la grâce. Et puis, eh non, il faut... entrer pleinement dans la grâce de Dieu pour qu'elle nous restaure et qu'elle fasse de nous des hommes et femmes conscients de leur identité en Christ. Vous le savez, nous avons adopté un enfant. J'ai deux choses que je voudrais dire à ce sujet concernant la grâce de Dieu et qui m'ont beaucoup parlé concernant ce que Dieu veut pour nous. Cet enfant, nous l'avons attendu 5 ans pour toutes sortes de raisons. Ça a été terrible. Beaucoup ont suivi ça. Je ne vais pas m'apesantir. Et je peux vous dire que, du coup, nous, cet enfant, on l'a aimé dès la... première seconde, on l'a rencontré. C'est ça, l'adoption, c'est comme ça. Et on a magasiné de l'amour pour lui. Dans toutes ces années où on n'avait pas de nouvelles, on ne savait pas ce qui se passait, on ne savait même pas si ça aboutirait. Mais l'amour était là, on n'y pouvait rien. Ça grandissait. Quand on l'a rencontré, moi qui suis une maman italienne, l'amour, ça... Je l'ai submergé, mais lui, il n'était pas prêt. Et les premiers temps, ça consistait à l'apprivoiser, le laisser nous adopter à son tour. Être en mesure de recevoir notre amour. Et moi, j'avais un peu de mal. Ma femme est beaucoup plus mesurée pour ça. Elle est magnifique. C'est une mère poule, mais sans le côté possessif. Moi, je suis possessif, voilà, comme ça. C'est pour ça que Dieu m'a donné 5 filles. Soit pour me guérir, soit pour m'encourager. Donc, ça dépend des moments. Donc, je suis possessif, oui. Voilà. Je me soigne, ma femme m'y aide beaucoup, mais je suis possessif. Et lui, ce petit-là, cet enfant que Dieu nous avait donné par prophétie 17 ans avant, donc on ne parle pas de quelque chose, juste un petit projet, eh bien, je le submergeais de mon amour, mais lui n'était pas prêt. Et donc, il a fallu ajuster notre amour, ou mon expression de l'amour, à sa capacité de le recevoir. C'est ça que Dieu fait avec nos vies. Même le moment où tu es le plus submergé par son amour, tu es loin d'épuiser l'abondance et la surabondance de l'amour de Dieu pour toi. C'est inimaginable, inimaginable. Mais Dieu est patient. Dieu est patient. Il attend. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et puis le fait que nous sommes établis dans un statut de fils, comme il nous voit comme si nous n'avions jamais péché. Nous, on voit tout le temps. Alors moi, je suis champion pour ça. Hein. Je peux passer mes étés à déprimer, alors ça aussi je me suis soigné, mais j'ai passé pendant longtemps mes étés à déprimer parce que je faisais le bilan de ma vie, parce que c'est normal, il faut faire des évaluations, etc. Donc, mais je passais mes étés à voir tout ce que j'avais raté. tous les coches que j'avais ratées, les choses que j'avais mal faites, que j'avais pas accomplies, j'avais pas abouti. Et puis il y en avait un paquet. Hein. Et on croit que Dieu nous voit comme ça. On croit que quand il nous accueille dans sa présence, il nous dit, bon, allez, ça y est, t'as compris ? Ce pas-là, tu vas le faire avant que je puisse t'aimer comme j'ai envie de t'aimer ? Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on voit Dieu, hein, quelque part. Alors que la Bible dit qu'on doit s'approcher de Dieu avec assurance. On s'approche du trône de la grâce, et pas des reproches, et pas de des remontrances. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas, il voit bien mieux que nous. Mais ce n'est pas ce qui l'arrête. Sa grâce triomphe. Donc il faudrait qu'on entre dans cette position de règne, pas par suffisance, pas pour nier tout le travail de sanctification. Je veux rassurer tout le monde, ceux qui pourraient penser que je veux encourager au laxisme, pas du tout. Mais même si on est dans la vérité, l'humilité, en même temps, il faut que ce soit une position d'autorité et de règne, parce que c'est notre vocation. Nous sommes le peuple que Dieu a suscité, la nouvelle humanité, pour peupler cette terre et la terre à venir. C'est ça la grâce de Dieu. Dernier exemple sur lequel je vais pas tarder à terminer, mais je voulais donner pour montrer la puissance légale de la grâce de Dieu dans notre contexte à nous, même sociétal. Après toutes ces années d'attente pour notre fils, à un moment donné, il fallait la dernière touche à ce processus d'adoption qui consistait à ce que le président du tribunal de grande instance de notre département signe un document déclarant l'adoption plénière sous la forme d'un état civil. Après toutes les galères qu'on avait vécues jusque-là, on s'est dit, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus ? Ça va être encore... Puis non, Dieu nous a fait grâce à ce moment-là, dans le sens où on a reçu ce courrier. Et ce courrier disait, et ça c'est l'autorité de l'adoption, pour Dieu, comme pour nous dans notre petite histoire personnelle. Ce courrier disait, Tam Evan, c'est son prénom, Tam Evan Potenti, né le 7 mai 2001 à Ho Chi Minh, au Vietnam, de Jean-Marc et Daniel Potenti. Plus personne ne peut remettre en cause le fait qu'il est notre fils, qu'il sera héritier de notre maigre magot, comme ses sœurs. Il porte son nom, leur nom, porte notre nom, c'est la chair de ma chair, c'est le sang de mon sang. Son passé ne peut pas le rattraper. Alors c'est violent d'un côté, hein, mais c'était la volonté des parents. Je rassure tous ceux qui diront quand même, hein, non, on n'a rien volé, on n'a rien pris, on n'a rien. C'est la volonté des parents. Pour des raisons que je vous demande de respecter, parce qu'on n'est pas dans leur contexte. Donc, c'est mon fils. Il a les yeux un peu bridés. Même beaucoup. Et c'est ce qui fait sa beauté. Mais c'est mon fils. C'est ce que Dieu dit avec nous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous a déclarés comme fils et filles. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il ne revient pas sur sa décision. Il n'est pas en train de faire des allers-retours à notre égard en disant quand est-ce qu'ils vont enfin. Hein. Nous, on fait comme ça même avec nos enfants, des fois. Hein. Des fois, on n'est pas trop content de la façon dont ils réagissent dans telle ou telle attitude. Et puis, on peut être un peu exigeant. On dit bon, voilà. Mais il y a des parents qui boudent même parfois avec leurs enfants, en disant qu'est-ce qu'ils seront enfin reconnaissants pour tout l'amour que j'ai eu pour eux, etc. Donc on a beaucoup de choses à apprendre en tant que parents aussi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il vous a positionné. Et ce positionnement, c'est un positionnement éternel. C'est maintenant que ça commence. Et ce sera pour l'éternité. Le peuple qui s'est acquis pour célébrer sa gloire sur terre, maintenant, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Parce que tout ça, ça a une perspective. C'est deux choses par lesquelles je termine. Notre perspective, c'est pas d'aller au ciel, c'est de vivre sur une nouvelle terre, sous de nouveaux cieux, où la justice habitera et où les nations marcheront à sa lumière. Toutes les imageries, les représentations qui font que finalement il n'y a pas de sens dans la nouvelle création qui nous attend, il y a juste une espèce de truc nuageux, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle du ciel, doivent tomber. Le peuple que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire, il prend sa source en Adam, se poursuit à travers Israël, il s'accomplit à travers l'Église composée des Juifs et des païens, et il prend son sens dans la nouvelle création, parce que c'est le peuple avec lequel Dieu va gérer le monde à venir qui nous attend. La destinée que tu as, le ministère que tu as, il n'est pas juste pour ces quelques années, plus les années passent, plus ça me rassure. Les rêves que nous portons, nous n'en verrons pas l'accomplissement seulement pendant notre temps terrestre. Parce que nos enfants vont les poursuivre jusqu'au bout de génération en génération. Et un jour, ils s'accompliront. De toute façon, dans l'éternité, ton appel est éternel. Ta destinée est éternelle. Et il y a quelque chose qui t'attend dans l'éternité où tu pourras encore plus développer tous les magnifiques talents que tout, Dieu te, que tout le monde te reconnaît aujourd'hui. Ça prendra encore plus de sens, plus de beauté, plus d'éclat dans l'éternité. Et nous régnerons ensemble, oui, sur une nouvelle création. Et nous apporterons, les nations apporteront leur gloire au Seigneur. C'est notre perspective. Je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais en tout cas, c'est ça que nous sommes appelés à vivre. C'est ça notre perspective là. Il faut prendre de la hauteur, il faut regarder un peu le passé, voir notre avenir et dire voilà ce vers quoi je vais. Et aujourd'hui, les écueils, les fragilités, les faiblesses, les souffrances du temps présent, elles n'ont pas de commune mesure avec la gloire qui sera révélée pour nous. Amen. Dans l'Église aujourd'hui, Église, peuple, zélé pour les œuvres bonnes, ça veut dire que tout dans l'Église doit être fait non pas simplement pour s'attacher à la vie spirituelle au sens strict de chacun de ses membres, mais au développement de chacun de ses membres selon Christ. Et c'est pourquoi cette école clé qui a été mise en place sert ce projet du royaume de Dieu. Et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, etc. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, pas pour former d'autres pasteurs, même s'il en faut, pour former d'autres évangiles, même s'il en faut, mais pour former des hommes et des femmes qui, avec une onction, quel que soit le nom qu'on va lui donner, mais une onction apostolique, une onction prophétique, une onction d'évangéliste, etc., pourront, dans leur vie professionnelle, accomplir le ministère et le service de l'Église. Ce n'est pas l'Église qui se sert elle-même et qui enferme tout son potentiel, c'est l'Église qui donne, c'est l'Église qui envoie, c'est l'Église qui est missionnaire, l'Église qui dit « Voilà, allez, là où tu es, l'Église est avec toi. » Dans l'implantation d'Église, dans ta vie professionnelle, dans ta responsabilité, dans ta mission de manager, dans ton poste de directeur, dans ton poste d'employé, quel que soit, l'Église est avec toi. L'Église, ce n'est pas ça, nous, ce matin. Ça, c'est un moment essentiel de la vie de l'Église, mais l'Église, quand on va se disperser pour être là où Dieu nous envoie et être signe de son royaume. Ce qui veut dire que ces zones-là, qui sont souvent marquées par la souffrance, par les tensions, on voit, oh, il y a du combat, oh, il y a des ténèbres, eh bien, c'est là que Dieu veut se révéler. C'est là que sa lumière veut briller. C'est là que sa justice veut venir. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Dans les quartiers, dans les usines, dans les entreprises, dans les administrations, il n'y a pas une seule zone de non-droit pour le royaume de Dieu à travers toi. À travers toi. Regarde pas à tout ce qui peut manquer, tout ce qui peut être fragile. Regarde à ce que Dieu dit de toi et ce à quoi Dieu t'appelle avec l'ensemble de son peuple. Amen. On va faire sauter les verrous ce matin. Je dis pas, je dis ça sans prétention parce que ce que je dis là, vous l'avez déjà entendu peut-être. Et donc je suis pas. J'ai pas de prétention. Je sais qu'on est face. Non pas juste à une vérité biblique ou théologique, on est face à un combat spirituel. Le diable, il est malin, mais il n'est pas si malin que ça. Parce qu'on a compris sa stratégie. Et sa stratégie, elle consiste juste à nous voiler cette dimension de notre appel de peuple zélé pour les œuvres bonnes. C'est tout. Il ne peut pas t'enlever le salut. Non, il ne pourra pas. Sauf si vraiment, il ne peut pas t'enlever. Nul ne nous ravira de sa main. On ne va pas faire revenir là-dessus. Il ne peut pas t'enlever le salut. Il peut te mettre quelques croquants en jambe dans tes relations pour empoisonner tes... Oui, parce que les relations, c'est important dans le royaume de Dieu, bien sûr. Mais il peut surtout t'empêcher de devenir offensif. Il peut surtout empêcher l'Église de comprendre quel est ce peuple zélé pour les œuvres bonnes. Ce peuple qui est envoyé, qui est missionnaire. Et qui est comme ce levain qui pénètre toute la pâte pour la faire lever. Ça, il peut le faire. Et ça, croyez-moi, il y est presque arrivé. Mais le réveil de l'Église, ça passe par là aujourd'hui. Je n'attends pas d'un réveil qui soit des conversions par milliers, parce qu'il y a des pays où il y a des conversions par milliers, par millions, dans lesquels les taux des croyants nés de nouveau augmentent sans que la réalité sociale, économique, politique ne change. Si c'est le réveil que nous attendons, bon, point de suspension. Le réveil que nous attendons, c'est le réveil d'hommes et de femmes qui comprennent leur mission, qui rentrent dans le règne de Dieu, et qui vont transformer les zones et les sphères dans lesquelles ils sont placés par la présence de Dieu, par la prière, l'amour de Dieu, par la compassion, et qui vont amener le royaume de Dieu là où ils sont. C'est ça le réveil. Et là, les lèvres tremblent. Pourquoi ? Alors, je veux pas, faut vraiment que je m'arrête. Pourquoi est-ce qu'on perd autant de temps avec toutes les théories les plus ineptes possibles parfois concernant le retour du Seigneur, concernant les temps de la fin, concernant l'interprétation de telle ou telle prophétie ? Pourquoi on se... Parce que le diable nous amuse avec ça. Balade un petit truc là, Et on y va, on y court, on court derrière comme ça. Et pas l'instant, la mission qui nous incombe, être ce peuple zélé pour les œuvres bonnes au sens où on l'entend, vous avez compris maintenant. Là alors, on passe à côté. Et on ferraille à coups de versets bibliques, à coups de théorie. On se bat d'opinion contre opinion. Et puis ça y va, et le ton monte, et l'agressivité monte. Et voilà. Et là, nous laissons le terrain libre pour l'ennemi. Donc c'est sérieux ce que nous disons ce matin. C'est pas quelque chose de... Bon, j'ai pas envie de vous faire du bien. Seulement. J'espère que ça vous fait du bien, mais j'ai pas envie de vous faire du bien seulement. J'ai pas envie de rassurer, d'encourager, de cajoler. Non, j'ai envie de dire, on est face à une question de vie ou de mort pour l'Église, mais c'est la vie qui va triompher. On est face à notre appel. Donc je m'arrête là, vraiment, et on va prier. Pour que tout ce qui en nous verrouille notre compréhension de notre position en Christ et de notre mission en tant qu'Église, saute. Vous me direz comme ça, je l'ai déjà entendu. Si tu commences à parler comme ça, c'est qu'il y a encore des choses. Parce que moi, ça fait 30 ans que je l'entends. Et j'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas tout compris. On est face à quelque chose qui doit pénétrer, et qui doit se transformer en action. Alors laissons le Seigneur déverrouiller en nous tout ce qui nous enferme, et tout ce qui enferme sa présence et son royaume. Tenons-nous dans sa présence. Nous l'adorons ensemble. Ce que nous partageons, c'est son plan, c'est son règne, c'est sa beauté, c'est sa majesté, c'est sa grâce. Nous avons commencé en célébrant sa grâce et nous continuons en célébrant sa grâce. Nous t'adorons, Seigneur. Courbons devant toi. Bien sûr, nous prenons conscience que notre compréhension est tellement limitée, il y a tellement de choses en nous qui sont bloquées, qui sont stériles, qui ont besoin d'être élargies. Mais Seigneur, tu le sais. Nous le reconnaissons humblement devant toi, nous nous courbons devant toi, mais nous ne nous laissons pas enfermer dans ni l'accusation, ni dans ses limites. Nous croyons ce que tu as fait de nous. Nous croyons ce que tu as fait de nous en Jésus-Christ. Nous croyons que tu as fait de nous, que tu fais de nous ce peuple zélé pour les œuvres bonnes, qui dans ce siècle présent manifeste ton royaume en attendant la bienheureuse espérance du Seigneur Jésus-Christ, dans la foi, dans l'espérance, dans la joie, dans le triomphe, même au sein des drames, même au sein des difficultés, même au sein de la persécution. Seigneur, c'est ta grâce qui nous rend fort, qui nous tient debout. Que ta grâce pénètre nos vies maintenant. Seigneur, viens ouvrir. Je prie maintenant au nom de Jésus. Faut que ce qui est en nous est encore touché, tenu par les ténèbres, les mensonges de l'ennemi, par les doctrines aussi, les héritages que nous avons reçus, même en termes évangéliques, même en termes théologiques. Il y a des arrière-plans, il y a des fondements qui sont là comme des obstacles irrémédiables contre ce message de ton royaume pour nous. Et parfois, on s'y accroche, on se retranche, on est prêt à combattre, on est prêt à ferrailler pour... Seigneur, viens vaincre nos résistances quand elles ne sont pas justes. Que les verrous sautent maintenant, dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos cultures, dans nos émotions, dans notre compréhension, Seigneur, au nom de Jésus. Viens pulvériser tout ce qui en nous enferme ta grâce et ton royaume et l'empêche de rayonner à travers nos vies et à travers l'Église, au nom de Jésus. Certains, c'est leur compréhension du travail. Certains, c'est leur compréhension de leur crainte de l'avenir, leur façon d'être en relation avec le monde, une façon d'être qui est marquée par le retrait, par la peur, par le pessimisme, la fatalité. Seigneur, viens. Fais-nous entrer dans le règne. Nous recevons l'abondance de ta grâce afin de régner dans la vie. Et si vous voulez, vous pouvez le dire avec moi. Je reçois l'abondance du don de la grâce afin de régner dans la vie par Jésus-Christ. Amen. Romains 5, 17. Reprenez ce texte. Priez sur ce texte. Laissez-le pénétrer vos vies. Transformez votre vie. Et laissez-le vous montrer ce que ça veut dire pour vous de régner dans la vie. C'est vous mettre debout. Vous lever dans vos dons, dans vos talents, dans ce que Dieu a mis en vous, dans ces trésors qu'il a enfouis en vous, afin de les révéler, d'en prendre conscience et de les libérer. Au nom de Jésus. Amen. Quelques instants encore dans sa présence. Il y a des appels qui reprennent vie dans la vie de plusieurs. Il y a des domaines qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des façons de voir qui sont en train de... de vous apparaître comme étant « Ah non, ça, c'est pas conforme, c'est pas cohérent avec le royaume de Dieu. » Dieu rappelle des choses à certains, Dieu ouvre des choses nouvelles pour d'autres. Il est en train d'agir et de faire de nous ce peuple zélé pour les œuvres bonnes. Amen. Il y a des choses qui s'ouvrent, il y a des passions, il y a des désirs, il y a des terrains, il y a des territoires dans lesquels Dieu vous conduit. Dire, ah, c'est là que je t'attends. Parfois, c'est l'endroit où vous n'aurez jamais pensé, imaginé, parce que vous l'aviez considéré comme tellement sombre, tellement tenu par les ténèbres. Et Dieu te dit, mais c'est là que je veux faire éclater ma gloire. C'est là que je veux t'accompagner, c'est là que je veux être avec toi. Alors lève-toi dans la foi et règne. Alors vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Certains peuvent se lever dans sa présence, comme dans une position pour Seigneur, tu nous rétablis dans le règne. Tu nous établis. Et Dieu nous a déjà établis, mais c'est à nous d'y entrer. Assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Partout où tu sens que tu es dominé par la crainte, ou même influencé par la crainte, et que tu sens que là, Dieu t'emmène à prendre une position d'autorité, de règne, d'espérance. D'espérance pour le salut, d'espérance pour la transformation. Alors, lève-toi devant Dieu et dis, Seigneur, par ta grâce, pour ta gloire, non pas à nous éternels, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous éternels, mais à ton nom, donne gloire. Alléluia. Qui veut une vie épanouie en Christ? Qui veut entrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour lui? Non pas sur un plan égoïste, mais simplement pour être au sein de ce peuple, un acteur, un agent du royaume de Dieu. Qui veut laisser le salut entrer dans un domaine de sa vie où il n'a jamais encore pénétré, dans ta vie professionnelle, dans ta relation à l'argent, dans ta façon de manager ton équipe, dans ta façon de diriger ton entreprise, dans ta façon d'être employé, d'être en position de subordonné. Laisse entrer le salut de Dieu. Laisse, c'est pas ton statut, c'est pas ta position sociale qui fait la différence, c'est l'attitude dans laquelle tu es. Tu peux être en position de service, et parce que tu es en position de service, tu es en position d'autorité, de gouvernement. Tu peux influencer, tu peux orienter, tu peux dans la prière, la compassion, la justice, la vérité, la joie, par la présence de Dieu, tu peux transformer l'atmosphère dans laquelle tu te trouves et amener le royaume de Dieu. Alléluia. Vous comprenez qu'on est tous missionnaires là. Tous missionnaires, on est tous agents, on est tous en mouvement, tous acteurs. Si tu sens qu'il y a du poids, si tu sens que... Moi je suis à la retraite, eh bien, encore mieux. Il y a des sphères dans lesquelles Dieu va te conduire, de relations dans lesquelles tu vas pouvoir... Moi je suis maman à la maison, encore mieux. Mais quel beau ministère que d'éduquer les futures générations. C'est la fête des mamans. Alors vis-la cette fête pleinement. Non pas en étant en regret, en retrait, en regret de ne pas pouvoir faire autre chose, mais en étant au cœur de la mission du royaume de Dieu que Dieu t'a donnée. Alléluia. Tout reprend vie. Même les choses les plus, à notre sens insignifiant. Dieu met son projecteur sur ta vie. Et il fait de toi un membre actif de ce peuple. Zélé pour les œuvres bonnes. Amen. Discernement, là où tu as renoncé, là tu dis, oh là ça sera pas possible, là je vais pas pouvoir y entrer, là oh là c'est trop compliqué. Oui mais attends, Dieu est avec toi. Si le péché abonde, la grâce surabonde, et le zèle revient, et la motivation revient, et l'espérance revient, parce que Dieu est avec toi. Va, vaillant héros, va avec la force que tu as, va avec les talents que je t'ai donnés, va avec la parole que tu as reçue, et que Dieu réveille maintenant dans ton esprit, va avec la promesse, va avec l'espérance de devenir un acteur de ce royaume. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans sa plénitude, dans sa beauté, alors que nous t'adorons, Seigneur, et que nous t'aimons, Seigneur. Vous pouvez prendre place.